Te disons merci, Éternel, notre Dieu, pour ton amour pour nous, pour nous avoir donné le temps d'être ici dans ta présence pour chercher ta face. Maintenant que nous sommes là pour écouter ta parole, Seigneur, nous te demandons de nous parler parce que nous sommes prêts à t'obéir. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Bienvenue encore une fois pour cette suite de notre séminaire. Avant d'aller plus loin, je veux demander s'il y a quelques personnes qui peuvent nous dire une chose qu'ils ont retenue hier. Oui, ma sœur, tu peux te mettre debout et dire une chose que tu as retenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, ce que j'ai retenu hier est que lorsque l'orateur a dit que si Dieu nous donne quelques capacités, c'est pas pour nous seuls. Donc, c'est pour être aussi utile dans la vie des autres. Amen.
Merci beaucoup, Papa Jaron.
Alléluia.
Amen.
En fait, hier, j'ai été béni par les messages et d'une façon particulière, les mots qui m'ont béni est que Dieu a un plan pour les nations et non pour la nation. Et il y a un message prophétique pour la République démocratique du Congo. Alors hier, parmi les sujets de prière que nous avons prié, et que Dieu puisse révéler à tout et chacun de nous ce message prophétique qu'il a pour ce Congo, la République démocratique du Congo. Merci.
Merci beaucoup. Sifa, Wilhermine, et puis Agerlas là-bas.
Merci. Personnellement, j'ai été aussi bénie par le message d'hier. Lorsque l'orateur était en train de parler par rapport à la responsabilité que le Seigneur accorde à quelqu'un, et toujours derrière la responsabilité que le Seigneur accorde à quelqu'un, il y met toujours de capacités. Et c'est lorsque l'orateur était en train de faire l'illustration du Congo, il nous a dit, c'est pas pour rien que le Seigneur a autant mis ici au Congo, dans le sous-sol et tout ça. Donc nous devons croire à la libération du Congo parce que l'effet seulement de voir tout ce que nous avons, ça affirme certainement que la libération est en train d'arriver. Merci.
Merci. Wilhermine.
Merci, c'est presque dans le même angle d'idée. Ce qui m'a béni hier, quand l'orateur a dit, si Dieu nous donne des ressources, il faut être capable de gérer les ressources que Dieu nous a données. Il faut être capable d'exploiter ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup.
Merci. Gerlas.
Alléluia.
Amen.
Oui, il y a aussi une bénédiction particulière que j'ai eue hier. C'était par rapport à la gestion de la bénédiction. Et dans le message, j'ai compris que, comme tel était le cas de notre pays, qu'il y a des fois des bénédictions que Dieu nous donne, mais si nous ne savons pas comment les gérer, ça peut se tourner en souffrance contre nous. Alors, ma prière était que le Seigneur nous aide toujours, qu'à chaque fois que nous avons des bénédictions, qu'il nous révèle aussi comment les utiliser pour sa gloire. Aussi, c'était aussi vraiment une révélation que de voir que des fois, il y a des bénédictions, si nous les gérons mal, qui peuvent détruire notre vie. Et qu'il y a aussi même des moments de joie, s'ils ne sont pas bien gérés, ils peuvent aussi ouvrir des portes au diable. Pour autant que le Seigneur peut nous donner une bénédiction d'un temps-là particulier, mais s'il ne nous révèle pas comment l'utiliser, ça peut nous amener à l'orgueil et ça ne sera plus une bénédiction pour sa gloire. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces différentes bénédictions? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée et nous allons parler de la responsabilité individuelle dans les réveils. Et je suis sûr que le Seigneur va vous bénir. Mais avant d'aller à la responsabilité individuelle, vous vous souvenez que notre grand thème, c'est « Que faire quand les fondements sont renversés, que fera le juste ?» Quand les fondements sont renversés, que fera le juste ? Quand les morales sont renversés, quand les pays sont détruits, quand nous avons des morts que nous ne savons pas expliquer, quand nous prions et que nous ne voyons pas de réponse, quand nous avons des contradictions dans nos vies, le juste que fera-t-il? Donc je vous propose que nous puissions lire Psaume 11, là où nous trouvons notre texte, notre thème vient de ce texte-là. Je veux faire un petit commentaire sur le Psaume 11 et puis nous allons directement passer à notre sujet du jour qui est l'éveil individuel. Psaume chapitre 11, le livre de Psaume, c'est facile à trouver, c'est quelque part vers les milieux de la Bible. Psaume 11, la Bible nous dit, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis devant les montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils agitent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre ceux qui ont le cœur droit. » Verset 3, « Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, et ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes, il est les méchants et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et des soufres, un vent brûlant, c'est la calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. » Voici les textes des psaumes où nous tirons notre grand sujet. Au verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ? » Et ici, nous voyons que les psalmistes commencent par dire « L'Éternel est mon refuge » et il répond à ses persécuteurs « Comment vous pouvez me dire de fuir devant les défis ? Alors que je sais que l'Éternel est mon refuge, comment vous pouvez me dire de m'enfuir comme un oiseau et d'aller dans les montagnes ?» Et puis lui-même se pose maintenant la question « Quand les fondements sont renversés, le premier des versets, nous voyons le premier verset, le psalmiste en train d'argumenter avec ses persécuteurs. Le deuxième verset, il réfléchit sur sa persécution. Le troisième verset, il se pose la question, mais qu'est-ce que feraient les justes quand les fondements sont renversés? Un des plus grands défis que nous avons, c'est de faire face aux défis et ne pas fuir devant les défis. Toutefois que nous avons un défi énorme, il y a tendance de fuir la responsabilité, de fuir devant les défis. Et ici, le psalmiste, on lui propose ça comme voie de sortie. Fuyez. Et il dit ici, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Remarquez qu'il dit, quand les fondements sont renversés, beaucoup de fondements, mais quand il répond à ce que le juste fera, il est dit au singulier. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc la réponse à l'effondrement des fondements, c'est une réponse individuelle. Chaque juste doit décider individuellement ce qu'il va faire comme réponse. Quand les fondements sont renversés, toi comme juste, tu feras quoi? Et c'est ça la question que nous sommes en train de traiter dans les deux semaines à venir. Alors, pour l'éveil individuel, hier nous avons parlé des nations d'une manière générale. Je vous propose de lire avec moi Genèse chapitre 1. Pendant que nous sommes en train d'ouvrir Genèse chapitre 1, vous vous souvenez hier que j'ai dit que Genèse c'est le livre des commencements. Ce n'est pas seulement la genèse de la création, mais c'est les commencements, une série de commencements, c'est ça la genèse. Donc quand nous allons en genèse, nous allons au commencement des choses. La première fois que Dieu crée, la première fois que Dieu parle, la première fois que Dieu punit, la première fois que Dieu fait quelque chose. Et toujours quand nous voulons comprendre un principe, la Bible dit, Genèse chapitre 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » C'est la parole du Seigneur. Ici, nous voyons que quand Dieu crée l'homme, il vient de créer la personne physique, créant l'homme à son image. Lui-même prend la boue et il façonne le corps. Il souffle la vie dans l'homme et après avoir soufflé la vie, il parle à l'homme pour la toute première fois. Imaginez les paroles d'un créateur pour sa créature, les premières paroles du créateur pour sa créature. Ça signifie que Dieu estime que ces paroles ici qu'il va prononcer sur l'homme, ce sont les paroles les plus importantes qui vont déterminer la suite des événements. Et ici, nous voyons que Dieu leur dit, « Tu es créé à mon image. » Et il leur dit au verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur tous les êtres qui existent dans ce monde. » Donc, il donne à l'homme la responsabilité de dire, je viens de te créer, je viens de te façonner, mais je t'ai établi comme responsable de la terre, responsable de la nature. Nous voyons ici deux choses. La première des choses, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais cette image est manifestée dans notre capacité d'avoir la maîtrise sur la nature. Toute le fois que l'homme maîtrise la nature, maîtrise ce que Dieu a créé de naturel, il est en train d'exprimer la ressemblance à Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et cela est manifesté dans notre maîtrise de la nature. Pourquoi ceci est important? Je disais le matin que pour les informaticiens, quand vous avez un nouveau appareil, il y a un programme qu'on appelle BIOS. Basic Input Output System, qu'on met avant le système d'opération. C'est le programme, le logiciel le plus basique d'un appareil électronique. Ça signifie que c'est sur ce logiciel-là qu'on construit tous les autres. Sans ça, l'appareil ne peut pas fonctionner. Et ici, nous voyons le BIOS, le logiciel, le premier que Dieu donne à l'homme, il lui dit, retiens-toi deux choses. La première des choses, tu es créé à mon image. Et la deuxième des choses, cette image sera manifestée par ta maîtrise de la nature. Pourquoi ce verset est important, mes chers amis? Ce verset explique pourquoi les nations qui ne croient pas à Dieu évoluent plus que les nations qui croient en Dieu. Pourquoi? Parce que ces versets ici, quand Dieu les donne, il n'y a pas encore de péché. Il n'y a pas encore de perdu, il n'y a pas encore Satan dans l'image ici. Il n'y a pas encore de salut de l'humanité, il n'y a pas encore tout ça. C'est quelque chose de très basique. C'est pourquoi toute le fois que les hommes dans leur territoire prennent charge ou maîtrisent la nature, ils sont en train d'exprimer l'image de Dieu. J'ai donné un exemple, certains d'entre vous ont déjà pris un avion. Vous voyez cet appareil créé par les humains qui vole et qui porte des tonnes et va aller pendant des kilomètres et aller descendre à un endroit. Quand on était petit, on s'est posé la question s'il y avait des routes dans le ciel où les avions passaient. Regardez ce niveau de maîtrise de la nature, ça c'est l'expression de l'image de Dieu. Et parce que cette expression de l'image de Dieu, Dieu l'a donnée à tous les humains sans distinction, ça signifie que tous les humains ont la capacité de chercher à maîtriser la nature. C'est pourquoi la science, c'est une expression de l'image de la création de Dieu. La science ne peut pas être comme Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Je vois beaucoup déjà faire les débats que la science un jour va annihiler la présence de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Et quand nous faisons des recherches scientifiques, même quand nous les faisons sans Dieu, nous sommes en train de vouloir maîtriser la nature. Mais ça, c'est l'expression de la louange de Dieu. Ce microphone que j'utilise, je parle avec ma voix qui est encodée ici par des signaux électriques qui sont transmis par des ondes sur cette antenne là-bas. Cette antenne le transmet par ses câbles, ça arrive au mixeur, le mixeur le renvoie dans les baffles, vous l'entendez. Ça, c'est la maîtrise de la nature. C'est la maîtrise de ce que Dieu nous a donné. Donc, parmi nos premiers appels que nous pouvons comprendre, ce qui peut expliquer pourquoi les nations qui ne connaissent pas Dieu peuvent avancer, c'est parce que Dieu l'a prévu que nous pouvons manifester son image en maîtrisant la nature. Donc, le plus tu maîtrises ton environnement ou les choses qui t'entourent, le plus tu exprimes l'image de Dieu. Et je vais montrer tout de suite pourquoi il y a un piège où les gens se sont focalisés sur l'expression de l'image de Dieu dans l'aspect spirituel et nous avons oublié les autres aspects. Voilà un peu le verset de Genèse qui nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, quand Dieu dit « soyez féconds », la traduction française nous parle de la fécondité, mais si vous lisez les autres traductions comme en anglais, vous allez voir que la Bible dit « be fruitful », donc « produisez du fruit ». Donc, si nous traduisons bien en français, nous allons voir que Dieu dit à Adam et Ève « soyez productifs ». Soyez productifs. Et ici, je vais vous donner 5 domaines dans lesquels nous devons être productifs pour répondre à ce verset de Genèse. Quand Dieu dit « soyez productifs », la première des choses, c'est ce dont nous parlons en français, la fécondité, la reproduction. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, tout le monde le comprend. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps sur ça. Et ici, à Gomaville, je pense chaque dimanche, nous sommes témoins de cette parole que nous sommes en train de très bien mettre en pratique. Donc ça, il n'y a pas de problème. Partout dans le monde, je pense en décembre, les Nations Unies ont maintenant annoncé officiellement que nous sommes 8 milliards de personnes sur la planète. 8 milliards, c'est beaucoup de gens. Nous sommes maintenant 8 milliards officiellement. Ça signifie que si seulement la seule mission c'était de se multiplier et de remplir la terre, on aurait déjà accompli la parole de Dieu, n'est-ce pas? Allô? Combien d'entre vous connaissent des gens qui ont la mission de remplir la terre? Si c'était seulement ça la mission, surtout là, au Congo, dans certains de nos villages, on aurait déjà accompli la volonté de Dieu. Mais pourquoi cela n'est pas suffisant? Parce que cela fait seulement partie de la grande mission que Dieu nous donne. La reproduction. Le premier fruit, c'est le fruit de la reproduction, de perpétuer l'être humain. Le deuxième, c'est le fruit d'utiliser notre intelligence, le fruit des idées. Pourquoi ceci est important? Vous savez que Dieu est créateur, mais nous sommes des fabricants. Ça va? Dieu est le créateur, nous les hommes, nous sommes des fabricants. Nous ne créons pas, nous fabriquons. Je vais vous donner la différence. Quand Dieu a créé, il n'y avait pas de banc sur lequel vous êtes assis. Il n'y avait pas de banc. Je suis sûr qu'Adam n'avait même pas une maison, on l'avait juste mis dans les jardins. Alors s'il voulait continuer à vivre à l'extérieur le reste de sa vie, ça c'était son choix. Quand nous construisons ce temple, il n'y a pas de banc. C'est à nous de choisir si nous allons avoir un temple où nous nous mettons debout ou assis par terre. Ça, Dieu ne va pas interférer dans notre choix si nous voulons nous mettre debout ou par terre. Ça, c'est à nous de le faire. Ce que Dieu a fait, il a créé la matière première pour que nous puissions fabriquer tout ce que nous voulons à partir de nos idées. Donc quand Dieu crée Adam et Ève, quand il crée au commencement, les bons étaient là. Mais il fallait que les idées de l'homme puissent entrer en contact avec la nature, transformer la nature pour créer les bons. Allô? Parce que Dieu nous a donné le même modèle, nous sommes créés à son image. Quand Dieu crée l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image ». Quand il crée les animaux, il parle à la terre et la terre produit. Quand il crée l'homme, il façonne la terre et la terre produit la chair. Et il met la vie dans cette chair. Donc il fait le même principe. J'ai déjà créé la terre comme ressource naturelle, mais vous utilisez maintenant votre intelligence pour transformer ce qui est autour de vous à quelque chose. Donc, si nous venons dans ton environnement, nous regardons autour de toi, nous allons voir ta capacité de transformer ton environnement à quelque chose de beau ou de joli. Allô? Ça signifie que ton environnement peut nous donner une idée de ce qui se passe dans ta tête. Allô? Ton environnement, c'est une projection de ce qui est dans ta tête. Ça, c'est très dangereux. Ça signifie que si quelqu'un vient dans ta maison et tout est sale, c'est une projection de ce qui est dans ta tête. Donc, ton cerveau accepte que tu peux vivre dans un lieu pareil. Allô? On est ensemble. Ce qui signifie que si nous voulons voir ta capacité, nous ne voyons pas ce que tu dis. Nous allons voir ce que tes idées en relation avec la nature ont produit. Quand on t'a donné les ressources de la nature, tu les as fait quoi pour produire quelque chose? La différence entre nous et les autres nations se situe à ce niveau-là. Parce que les autres personnes, tu arrives chez eux, ils ont su transformer leur nature en quelque chose de joli. Vous connaissez un pays appelé Pays-Bas. Pourquoi pensez-vous qu'on l'appelle Pays-Bas? Oui, certains le connaissent. Je vois que là, j'ai sauté la réponse. C'est parce que les Pays-Bas, c'est un pays qui est en dessous du niveau de la mer. Mais ils ont dit créer des digues pour créer des territoires. Unambia Bahari, tu vas t'arrêter ici. Ça, c'est la maîtrise de la nature. Tu barres l'océan, le canal de Panama. Vous pensez que c'est une rivière qui coule? Ce n'est pas une rivière, ce sont des escaliers. Les bateaux vont dans des escaliers pour descendre et monter les escaliers. Tu as déjà vu un bateau monter un escalier? Mais ça existe au canal du Panama, avec l'eau seulement. Les bateaux entrent remplis d'eau, l'eau monte. L'ascenseur créé par l'eau qui transporte des paquebots. Ça, c'est la maîtrise de la nature. On prend les idées, on agit avec la nature et on est incapable de produire quelque chose. Donc, je vous pose maintenant une question en tant que Congolais. J'espère que nous tous, nous sommes Congolais ici. À supposer, jouons un jeu mental qu'on nous amène, nous, tous les Congolais, dans un espace temporaire où nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Et on amène les gens de notre pays qui n'ont jamais entendu parler du Congo et on leur dit « circuler dans ce pays » et donnez-nous une idée des gens qui vivent ici. Quelle peut être leur conclusion sur notre état mental? On les amène à Kinshasa, à Goma, à Kitoukou. Hein? Dans tous les lieux, ils vont conclure quoi? Ce qu'ils vont conclure, c'est ce que nous avons été à mesure en tant que peuple de projeter dans la nature. Donc c'est notre responsabilité de dire... Dieu a déjà donné les ressources naturelles. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions transformer la nature? Je vais vous donner des choses que nous pouvons commencer à faire, ne vous inquiétez pas. Donc ça, je suis en train de lancer les défis d'abord. Donc la première des choses, nous avons dit la reproduction. La deuxième des choses, c'est l'utilisation de l'intelligence pour transformer la nature. L'autre fruit, c'est la bouche. Le pouvoir des mots. Dieu a créé par sa parole. Et notre parole est aussi a le pouvoir de créer. A le pouvoir de créer la vie. A le pouvoir de créer les conflits. Vous savez que le génocide au Rwanda a été lancé par un communiqué à la radio Mille Collines. Un communiqué. 100 jours après, plus de 800 000 morts par un communiqué. Il y a quelque chose que je peux dire ici. Il y a quelque chose que le pasteur peut dire ici et tu ne reviendras jamais ici à Gomaville. Non, là, pour haki ya Mungu mwele kanisa staka yangaten. Et il y a quelque chose, par exemple, ce que je suis en train de dire, je suis en train de transmettre la vie à travers mes paroles. Et nous tous, nous avons ce pouvoir. Et la Bible dit que dans la langue, il y a le pouvoir de la vie et de quoi? Et de la mort. Ça, c'est l'autre fruit que nous devons produire. Les paroles que nous prononçons, est-ce qu'ils créent la vie ou ils créent la mort? Quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, Papa Ramazani, depuis lundi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en priant? Ce sont des paroles que nous prononçons, non? Est-ce que comme en gymnastique et tout qu'on a fait, il y a quelqu'un qui est en train de faire des rôles ou autre chose? Nous sommes en train de venir ici et nous prononçons des paroles. Pourquoi nous pensons que ces paroles ont un effet? Si quelqu'un venait te menacer, dit, combien d'entre vous peuvent avoir peur? On te menace par une prière. Je vais prier pour toi. Combien sentez-vous se sentirez menacé? Là, tu ne peux pas avoir peur. Mais si quelqu'un dit, je vais te maudire, certains d'entre nous réfléchiraient des fois. Surtout si la personne est âgée, la personne a dit, je vais te maudire. Parce que nous connaissons le pouvoir des paroles. Mais Dieu donne cette parole dans nos bouches pour que nous puissions créer la vie. Tu peux créer la vie, mes chers amis, avec tes paroles sur cette nation. Combien de paroles de mort nous avons déjà prononcées sur la nation? Si nous prenons les paroles de mort, ou des malédictions que nous avons prononcées sur le Congo, nous les pesons ici et nous les pesons les prières pour le changement de la RDC. Qu'est-ce qui va peser le plus? Nous prenons 100 millions de Congolais, nous prenons toutes les prières pour la RDC dans un sac et toutes les mauvaises choses que nous avons dites sur la RDC, ok, nous mettons sur la balance. Qu'est-ce qui va peser? Et si Dieu utilisait seulement nos paroles pour répondre à notre prière? Allô? Pour dire, mes chers amis, nos paroles sont puissantes. C'est pourquoi même Dieu, lui, ne peut pas faire une blague, vous savez. Dieu ne peut pas faire une blague parce que ce que Dieu dit s'accomplit. Si Dieu venait ici et il appelle cette chair une vache, ça va devenir la vache. Immédiatement, Dieu ne peut pas faire une blague. Parce que la nature ne sait pas faire la différence entre la parole de Dieu. C'est pourquoi quand elle dit que la lumière soit, la lumière est là. Quand Dieu dit que la terre donne des plantes, les arbres poussent partout parce que la nature obéit à Dieu immédiatement, quel que soit ce qu'il dit. Et quand Dieu dit « tu mourras », tu peux faire tous les gymnastiques possibles quand il a déjà dit. Donc tout ce que nous devons chercher à faire, c'est de Dieu de dire quelque chose. Parce que derrière sa parole, se tient son pouvoir. L'autre fruit, c'est le travail des mains. Le produit de nos mains, notre travail, notre profession, ce que nous faisons, c'est le fruit que nous faisons pour exprimer la volonté de Dieu, pour exprimer notre image de Dieu. Le travail. Le travail qui produit notre récompense, la valeur que nous offrons au monde par notre travail, les solutions que nous apportons au monde par notre travail, c'est ce qui produit aussi notre importance. Je parlais à Alfred, on avait un débat ici ce matin. Je lui disais, pourquoi les gens vont au distributeur automatique, les ATM? Ce n'est pas une question piège, je pouvais répondre. C'est pour chercher quoi? Les cash. Pour la plupart des fois, bon, il y a des distributeurs où tu peux faire des transferts, d'autres où tu peux faire des dépôts, ça existe. Mais pour la plupart d'entre nous ici, nous allons pour chercher quoi? Les cash. Il y a différentes murs en ville. Mais pourquoi nous allons seulement à ces murs-là où il y a des distributeurs? C'est parce que derrière ces distributeurs, il y a tout un système qui soutient cette opération que tu vas faire là-bas. Ce n'est pas seulement un mur. Parce que si c'était un mur, on pouvait faire introduire nos cartes partout ici. Et on tire de l'argent. Comme des dessins animés qui touchent comme ça, ils tirent ainsi, ils touchent comme ça, ils tirent un marteau ou une échelle. On ne fait pas ça parce que il n'y a pas un système derrière qui soutient cette opération-là. Imaginez maintenant que toi, tu puisses être comme un distributeur. Ou quand les gens viendront, ils savent qu'ils vont trouver quelque chose. Ils vont trouver de la valeur. Allô? C'est ce que Dieu nous demande de faire, d'être des fontaines d'eau vive. Le dernier fruit que je vais mentionner, c'est le fruit de l'esprit qui est notre caractère. Notre caractère et les cadeaux que nous donnons pour être comme Dieu. Donc, si nous voulons comprendre notre appel en 5 mots, c'est la reproduction, les idées transformées en choses, les mots qui bénissent, le travail qui produit de la valeur et le caractère qui montre l'image de Dieu. Dieu veut que nous puissions produire des fruits. Dieu veut que nous puissions récolter. Mais vous savez une chose avec Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, il ne nous donne pas la récolte, Dieu nous donne la semence. Et c'est là où beaucoup de gens se découragent, où vous voyez ce que vous avez dans votre main, vous dites, qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Tu as très peu dans tes mains. Mais ça, c'est la semence, ce n'est pas la récolte. Quand Dieu te donne un talent, il te donne un talent comme une semence, pas comme une récolte, pour que tu puisses y travailler et que cela puisse devenir une récolte. Quand Dieu te donne une idée, l'idée va venir comme une semence. Combien d'entre vous ont déjà eu une idée et ça explique tout, hein, mais comprendre bien. Parfois, ça vient comme une petite idée que vous pouvez négliger, mais ça construit parce que c'est une semence. Quelles sont les semences que Dieu a mises dans nos mains que nous devons transformer en récolte? Quelles sont les semences que Dieu a mises dans notre cerveau que nous devons transformer en récolte? Pour faire la transition à 4 choses que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui. Dieu, nous avons dit, il donne la responsabilité à l'homme dans le jardin d'Eden. Il lui dit, prends charge de la nature. Mais quelque chose d'intéressant, c'est parce que quand Jésus vient, en Luc chapitre 4, il est tenté par le diable après 40 jours de jeûne. Et le diable va dire à Jésus quelque chose d'intéressant, que nous connaissons, mais la réaction de Jésus, c'est qui est intéressant. Le diable dit à Jésus, regardez tous les royaumes ici de la terre, ça m'appartient, je les donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes, je vais moi, je te les donne. Quoi? Mais nous pensons que Dieu avait déjà donné tout ça à Adam. Comment c'est arrivé dans les mains de Satan? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne contredit pas le diable. Pourquoi il ne le contredit pas? Il ne le contredit pas parce que c'est vrai. Parce que dans le cas de Pilate, quand Pilate dit à Jésus, Jésus est enchaîné, on l'amène devant Pilate, Pilate dit, quelle est ta défense? Quelle est ta défense? J'ai le pouvoir de te donner la vie et de te laisser la vie sauve. Jésus lui contredit immédiatement. Il lui dit non, personne n'a le pouvoir de prendre ma vie. Je donne ma vie quand je veux, je la reprends comme je veux. Pilate, il dit amen. Hein? Atakula kiburi. On a dit atakula kiburi. Je vais aider cette personne. Et Jésus a le sang qui coule sur lui. Pilate lui propose, donne-moi une défense, comme ça je te libère. Jésus lui dit, tu n'as pas ma vie entre. C'est moi qui donne ma vie et c'est moi qui la reprends. Pourquoi Jésus contredit Pilate, mais ne contredit pas Satan quand Satan dit que tout lui appartient? Qu'est-ce qui est arrivé pour que les richesses et les biens de ce monde puissent se retrouver dans les mains du diable. Je vous donne une révélation, mes chers amis, et je l'ai partagée ce matin. Quand l'homme pêche, Dieu vient du ciel et commence à poser la question, « Où es-tu, Adam ?» Il cherche Adam jusqu'à ce qu'Adam va apparaître et lui a dit, « Qui t'a dit que tu étais né ?» Dieu s'est adressé d'abord à Adam, parce que c'est lui qui l'avait laissé comme responsable. Allô ? Quand on arrive dans une maison, on s'adresse d'abord au responsable. Dans le mot responsable, il y a répondre. Même en anglais, ça se dit bien responsibility. Responsibility, the capacity to respond. La capacité de répondre, c'est ça le responsable. Le responsable, c'est celui qui a la capacité de répondre. Quand on arrive chez vous, on amène la facture de la SNEL. La personne à qui vous amenez cette facture, c'est lui le responsable. Vous autres, vous pouvez parler français et dire autre chose. Ou le monnaie va t'appeler qui est le facture, le responsable. Parce qu'il a cette capacité de répondre aux défis. Et Dieu, parce qu'il a laissé Adam comme responsable, il lui pose la question directement. Adam fait une erreur. Il dit, c'est la femme que vous m'avez donnée qui a fait que tout ça arrive. Directement, quand Adam se dit ça, Dieu arrête directement de parler à Adam. Parce qu'Adam vient de passer la responsabilité que Dieu lui avait donnée à la femme. Dieu arrête de parler à Adam, il commence à s'adresser directement maintenant à la femme. C'est la nouvelle responsable. Si la femme s'était tue, la femme allait devenir le maître de la terre. Si seulement elle s'était tue et allait accepter la responsabilité, c'était elle qui allait devenir. La femme aussi dit non, non, elle tourne la responsabilité, c'est le diable, c'est le serpent qui m'a trompé. Et quand Dieu tourne au serpent, le serpent s'était. Allô? C'est comme ça que la responsabilité qu'on avait mise sur notre tête est passée au diable. Et c'est pourquoi il fallait que Jésus vienne et qu'il aille jusqu'en enfer pour aller la reprendre. C'était difficile pour le Christ d'aller reprendre cette responsabilité pour nous la redonner quand nous acceptons Christ comme sauveur. Il fallait aller ravir ça. Dans Colossiens, il dit, il est allé prendre les clés. Toutes les clés, il les a ravies. Il est revenu avec. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Les responsables, c'est celui qui a la capacité de répondre. Quand tu arrêtes d'être responsable, il ne faut pas condamner les gens si les gens te traitent comme un enfant. Maintenant, parlons pour la RDC et qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi les nations nous négligent? Parce qu'ils arrivent chez nous et cherchent un responsable, ils ne les trouvent pas. Allô? Quand on pose la question à un Congolais, prends un Congolais même qui a fait la science politique, c'est quoi le problème du Congo? Il va te dire non, ce sont les multinationales. On a toujours une explication de quelqu'un qui est responsable de notre malheur. Et si nous apprenions à nous taire quand Dieu te dit qui est responsable ici? Et vous dites c'est moi. Vous ne savez pas ce que vous allez faire, mais vous dites d'abord c'est moi. Allô? Est-ce qu'on peut avoir cette attitude? Tu ne sais pas si on vient pour te tuer ou pour faire quoi? On dit qui est le responsable? Tu dis, mi ou you, nin. Quand nous allons arrêter d'abdiquer notre responsabilité en tant que peuple, nous allons commencer une pente montante. Et cela doit commencer au niveau individuel. Qu'est-ce que tu peux faire comme personne? Première des choses, la connaissance. Il faut avoir, si nous voulons changer cette nation, si nous voulons changer ce pays, nous devons avoir la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est comment les choses fonctionnent. C'est comment les choses se traitent. Vous savez, mes chers amis, on a déjà inventé l'imprimante, comment on imprime les choses. Tu ne peux pas créer ton propre imprimante à Majengo. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Créer autre chose. La connaissance signifie quoi? Faire pour comprendre comment gérer une nation. Une entreprise, on sait comment gérer une entreprise. On ne se réveille pas le matin, on commence à gérer. On sait comment le faire. Donc chacun d'entre nous, dans le domaine où tu veux exceller, je te pose une question. Est-ce que tu as la connaissance suffisante pour faire une différence? Ou tu es un amateur? Allô? Dans le domaine où tu veux apporter la solution, est-ce que tu as la connaissance suffisante pour apporter la solution ou tu es un amateur? Je vous pose la question. Si je passais le microphone ici et je donnais à chacun la parole, quelle est la solution sur le Congo? Chacun d'entre nous ici a une idée sur ce que le Congo peut faire pour être bien. Mais cette connaissance que tu veux dire, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que si on teste ton idée, ça peut faire décoller le pays? J'ai posé la même question aux gens, une personne a suggéré qu'il faut qu'on arrête toutes les personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, il a moins qu'on a 50 ans dans mon prison, quoi. Et puis, on prend la génération des gens qui viennent derrière. C'est une suggestion. Mais est-ce que cela est une solution pour le pays? Certains d'entre vous ici ont des suggestions, il faut qu'on fusille les gens. Est-ce que cela peut développer le pays? Allô? Il y a même quelqu'un qui avait dit non, si on me donne le pays, je vais faire que la Bible soit la nouvelle constitution. Come on. Ça signifie que nous tous, nous avons des idées sur comment développer ce pays, mais je vous pose la question, est-ce que votre connaissance est suffisante? Si vous êtes de chercher la connaissance suffisante pour gérer les choses, je peux vous dire, mes chers amis, rien n'est impossible. Ça dépend du pouvoir qui confronte les défis. Les défis que nous traversons aujourd'hui, j'ai donné un exemple le matin. Il y a des gens qui ont les problèmes. Ton plus grand problème, c'est d'avoir 10 dollars. Si je peux trouver 10 dollars. Donc, tu pries pendant une semaine, ton plus grand défi, c'est d'avoir 10 dollars. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut te donner ces 10 dollars sans même se rappeler qu'il t'a donné ces 10 dollars? Ça signifie que pour toi, ces 10 dollars, c'est un défi. Pour un autre, ni pranga kalanga. Le défi dépend de la personne qui confronte le défi. Nous avons un défi ici à Gomaville. Nous sommes en train de vouloir finir la maison pastorale, faire tout ce que nous avons comme activité. C'est beaucoup d'argent. Nous sommes maintenant dans les combien? 130 000 dollars et plus pour la maison pastorale. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut donner cet argent et même pas sentir qu'il l'a donné? Alors que nous avons fait toute une année en train de sensibiliser déjà, de menacer même certaines personnes. Les défis sont relatifs, ça dépend de la personne qui confronte les défis. Regardez les disciples, quand ils sont en train de traverser la mer, il y a un vent et tous paniquent, ils commencent à jeter l'eau du haut de la barque. Jésus est en train de dormir comme un enfant. Jusqu'à ce que les disciples se fâchent, ils vont avec lui dire, mémé, papa, nino. Comment nous sommes en train de nous noyer, toi tu ne t'occupes pas. Kamatana ni doge, wache tout pas mal. Je ne sais pas si vous avez des dogues. Les trucs là que les maçons utilisent pour couler les bétons. Doke, on appelle ça doge. Kamata doge, anja sauvé na wey kumai. Jésus se réveille. Il ne parle pas aux disciples, il ne parle pas à la mer, il s'adresse au vent. Allô? Il ne regarde même pas l'eau qui est dans la barque, il s'adresse au vent, parce que c'est le vent la source de tous ces problèmes. Il dit, vent, basse, il est natoche, calme-toi. Et le vent s'arrête immédiatement. Ce jour-là, la Bible dit, les disciples eurent peur de Jésus. Ils se posèrent la question, qui est donc celui-ci? Ils étaient en train de vivre avec Jésus, mais ils se posent encore la question, qui est donc celui-ci pour que les vents et la nature puissent l'obéir? Mais c'est qui ce monsieur? On est avec lui, mais haïko moins, moins et. Ça signifie que Christ les a montré que les défis auxquels vous faites face, c'est un défi pour vous, mais pour moi, je peux résoudre, tu sais, tous les défis que nous avons, Dieu peut résoudre ça en un claquement des doigts. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils racontent les géants. quelqu'un qui est possédé par des milliers de démons. Les gens avaient essayé de l'attacher, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'on l'a envoyé au cimetière. Et Jésus en arriva seulement, sans même dire un mot, les démons commencent à s'expliquer. « Oh, Touroumien, nous sommes ici, donc notre nom c'est Légion, ne nous amenez pas très loin, donc vraiment, soyez miséricordieux. » Les démons demandent à Jésus d'être miséricordieux. Et puis Jésus va dire, « Ok, allez dans les porcins. » Ils vont aller immédiatement et l'homme va être sauvé, il va être évangélisé et 10 villes vont venir à Christ à cause du témoignage de cet homme. Les défis auxquels nous faisons face, qui est en train de les confronter? La connaissance nous donne la capacité d'être égal à nos défis. Alors je te suggère dans les domaines où tu veux exceller de chercher la connaissance. Si tu veux gérer le pays, apprends comment on le fait. Si tu veux gérer une organisation, une église, apprends, sois humble. Il y a une raison pour laquelle les autres avancent. Une raison. Et nous pouvons apprendre ça. Nous pouvons être humbles et aller devant les gens. Comment tu as fait ça? Ou comme moi, comme maman, ou épiga, enda ou lisa voisine, ou ça y dit. Chapati n'y a rien. Va ta connaître. Comme on a katala tafta mwengine, va à YouTube, cherche un tuto, apprends. Tout ce que les gens connaissent, mes chers amis, nous pouvons l'apprendre. Nous pouvons l'apprendre. Entre toi et la personne que tu confrontes, c'est le niveau de connaissance que cette personne a comme avantage sur toi. Imaginez Moumoua Koussié, l'un d'entre nous, si on t'amène au 15e siècle, avec la connaissance que tu as aujourd'hui, tu vas devenir roi, tout le monde va t'adorer. Parce que tu auras l'avance de 500 ans sur ces gens. Imaginons qu'on avance à 500 ans. Les amis, les autres nations ont l'avance de plus de... Les États-Unis ont maintenant plus de 200 ans de démocratie. Nous, nous sommes à 62. Donc, si tu fais même égal, égal, 62 moins 200, c'est combien? C'est 148. Hein? Ça, 138. Donc, ils ont 38 ans d'avance sur nous en démocratie. On a 138 ans. Ça, 38 ans, c'est beaucoup. Les autres pays comme la Suisse, la France, ils ont là, on peut apprendre et prendre des raccourcis. C'est pourquoi ça a pris des années. Vous savez que les nombres que nous avons, on avait tous les nombres sauf zéro. Zéro a été créé à la fin. J'ai suivi les documentaires comment zéro a été créé. C'était compliqué pour trouver zéro, pour se mettre d'accord du concept zéro. Mais nous nous disons à quoi bien qu'à zéro déjà, ok zéro. Mais si je te demande de démontrer pourquoi zéro est zéro, combien d'entre nous sont capables de démontrer? Allô? J'ai cherché la démonstration à Mini Kaipima. C'était pas facile de démontrer zéro. Koukoumou Toubanez, ça va aller, mais pas Shashi, Banjo, Antafta, Bavile. Mais je vous dis, mes chers amis, il faut que nous cherchions la connaissance. La deuxième chose, ce sont les convictions. Tout ce que nous faisons, à part la connaissance, c'est au niveau de la conviction que nous agissons. Qu'on ne vous mente pas, mes chers amis. Tout ce que nous sommes en train de dire sur la Bible, il y a des gens qui ne sont pas dans Christ et qui connaissent tout ce que nous connaissons. Mais ne les mettent pas en pratique parce que ce n'est pas le niveau de la conviction. Il y a un auteur qui avait dit que la différence entre la religion et la vie chrétienne, c'est 30 cm. La différence entre la religion et la vie chrétienne, c'est 30 cm. La religion, c'est quand la parole de Dieu est dans notre tête. Quand elle descend 30 cm dans notre cœur, elle devient la vie chrétienne. Est-ce que la parole a déjà fait ses 30 cm de ton cerveau jusqu'à ton cœur? C'est ça le niveau de la conviction. C'est pourquoi vous pouvez trouver quelqu'un qui est docteur en économie. On lui donne un projet à gérer. Franga Zinakosekan. Docteur en quoi? En économie. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est docteur en droit. On lui dit seulement, il y a cette négociation d'Akula Mongapi. Quand il trouve ce qu'il va avoir, il bousille tout. Vous pouvez trouver des ingénieurs qui ont été formés à la Sorbonne. On leur donne, faites seulement la route ici Goma, Kibumba. Et au Congo, nous avons quelque chose que je n'ai jamais vu dans d'autres pays, quelque chose qu'on appelle un kilomètre témoin. Vous connaissez le concept d'un kilomètre témoin? Donc, qui a créé ce concept? Moi, je n'ai jamais compris. Un projet, on le fait ou on ne le fait pas? Comment tu peux créer un kilomètre témoin? Et si vous voyez l'un kilomètre témoin de Bukavu, quand j'étais là récemment, c'est presque détruit. Ils sont en train de refaire l'un kilomètre témoin. Alors que Zingine Hazia Fanyikak, ça c'est un concept purement congolais, des personnes qui n'ont pas l'intention de finir le travail. Mais on a besoin de montrer l'exemple. Et je peux vous dire, mes chers amis, ce ne sont pas les diplômes qui manquent en RDC. Ce ne sont pas les diplômes. Donc la connaissance n'est pas un problème, mais c'est au niveau de la conviction. Combien de chrétiens sont ici? Je disais le matin, nous étions dans une réunion au bureau, avant quand il y avait des crépitements de balles encore dans la ville pendant la journée. Tout comme une réunion, toute organisation chrétienne, il y a des crépitements de balles. Papa, papa, l'un des travailleurs directement il dit « Maï ». Et tout le monde se tient et dit « Ah, comment ta première réaction quand il y a des crépitements de balles, c'est ça ?» C'est la première des choses qui sort dans sa tête. Ça signifie que cette réaction primordiale est au niveau de la conviction. Il y a certains d'entre vous qui viennent ici à l'église, mais vous savez que ça ne suffit pas. Au niveau de la conviction, quand les choses vont mal, il y a des gens qu'on appelle pour dire, bon, il y a une situation ici, il faut qu'on voit ce qu'il faut faire. Je suis en train de vous dire, mes chers amis, est-ce que nous sommes convaincus au niveau de la conviction où nous pouvons mettre notre main à couper que nous sommes capables de construire ce pays? Ne répondez pas. Ne répondez pas. Est-ce que nous sommes convaincus où tu peux te réveiller à 4h du matin pour dire il faut que ce projet avance? C'est au niveau de la conviction que nous avons la plus grande action. Le temps nous manque. Les disciples avaient crié à Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu des miracles. Pierre a distribué le pain qui était multiplié dans ses mains. Il a vu des paralytiques marcher. Quand Jésus est mort, ils ont fui. Il est ressuscité, les a réunis. Et puis, il était on and off pendant 40 jours. Pierre a eu une brillante idée. Je retourne pêcher. Il est retourné et les autres disciples l'ont suivi. Après 3 ans, gradué en enseignement de Jésus. Ah, merci pasteur. Gradué en christologie. Un gradué en christologie avec les miracles à l'appui. Allô? Nous n'avons encore rien vu. Avec les miracles à l'appui, il retourne. Et Jésus va les trouver là-bas. Il fait un miracle. Il leur dit, petits enfants, est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Ils disent non. Il dit, jetez le filet de l'autre côté de la barque. Et quand il ramasse les poissons, il réalise que c'était le Seigneur. Pierre saute dans l'eau, il nage, il vient vers Jésus. Et il dit, va, sors de ma face parce que je suis pécheur et je ne suis pas digne de te parler. Pierre lui-même se disqualifie parce qu'il trouve que non. En tout cas, c'est Christ, c'est quelque chose d'autre. Il lui dit, Seigneur, je suis pécheur. Pécheur et pécheur. Donc les deux à la fois. En tout cas, va-t'en. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes, Pierre, fils de Jonas? Il lui pose la question 3 fois jusqu'à ce que Pierre réalise qu'il aime le Seigneur. Et quand ils les réunissent dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur dit, vous recevrez la puissance. Parce qu'ils savaient qu'au-delà de la connaissance, ils avaient besoin de la puissance d'agir. Dans leur propre force, ils ne le pouvaient pas. Nous avons aussi besoin de la puissance d'agir. Si tu veux confronter les problèmes que confronte le pays, pour t'éliminer, c'est 2 secondes. Mais tu peux avoir la puissance d'agir. Ça c'est un autre, pour un autre jour, avoir la puissance d'agir. Troisième chose, c'est l'action, les résultats. Si nous voulons changer ce pays, nous devons avoir la connaissance suffisante. Nous devons les croire au niveau de la conviction et nous devons être des personnes d'action qui produisent des résultats. Mes chers amis, il n'y a rien de plus éloquent que les résultats physiques que les gens peuvent voir et toucher. Vous pouvez arrêter de parler, mais produisez les résultats. Et votre travail va parler pour vous. Il est impressionnant au Congo que vous allez dans une conférence où tout ce qui est là, c'est de dire. Des discours, nous allons faire ça. Des discours interminables. Et puis poser la question, mais qu'est-ce qu'on a déjà fait sur le terrain? Non, non, nous sommes encore dans la phase de planification. Vous revenez l'année prochaine, la planification doit être revue, contenant des enjeux nouveaux. Vous revenez l'année suivante, il faut qu'on ajuste certains termes et qu'on réajuste les budgets. 5 ans, on est dans la planification, les ateliers ont consommé les budgets. Mais ce qui se passe dans d'autres pays, on donne la parole à seulement ceux qui ont accompli quelque chose. C'est ton accomplissement qui te donne la permission de parler aux gens. Qu'est-ce que nous avons accompli pour que nous ayons la permission que les nations s'arrêtent et nous écoutent? Je vais donner un exemple de nos voisins ici. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont facilement écoutés au niveau mondial? Parce qu'ils tiennent leurs paroles, dans les mauvais et dans les bons. Cette réalité, nous devons l'accepter en tant que peuple et dire, nous allons arrêter de condamner les autres, mais nous devons être des personnes qui produisent les résultats. Si nous prenons en charge et nous commençons à faire des choses qui parlent, il n'y a même pas besoin de campagne électorale. J'ai donné aux gens un exemple. Vous savez, beaucoup de gens connaissent maintenant Emmanuel Demerode. N'est-ce pas? C'est un Belge. Si Demerode disait qu'il postule, combien d'entre vous peuvent le voter? C'est tout le monde. Il n'a jamais fait campagne. Je l'ai déjà vu à la télévision seulement une seule fois, quand on l'avait fusillé. Et quand il faisait le marathon de Londres pour lever l'argent, pour mobiliser l'argent pour le central de Matebe, c'est tout. Vous le voyez en train de faire des petites conversations avec des gens à qui vous logez, en train de marcher à pied. Mais il produit les résultats. Il engage des milliers et des milliers de Congolais. Son budget est très minime par rapport au budget du ministère national du tourisme. Très petit, mais il a les résultats. Pour vous dire ceci, et il l'a fait au Congo, c'est possible. Moi, je rêve d'une génération qui va commencer à parler par leurs résultats. Et c'est ce que Dieu attend de nous quand il dit, assujettissez la terre, maîtrisez la nature, je vous l'ai donnée, c'est votre terre, maîtrisez-la. Une route, on connaît comment on l'a fait. Je faisais les recherches avant de venir ici. Je ne vais pas vous embrayer avec tout ça. Sur combien coûte 1 kilomètre de route par pays. Nous sommes les plus chers. Dans les coûts de 1 kilomètre par route. Au Kenya maintenant, ils sont autour de 200 000 dollars par kilomètre. Donc avec 1 million, ils peuvent faire 5 kilomètres. Les routes de Goma avec le problème de 100 jours, c'était 2 millions par kilomètre. Donc, ce qu'il peut faire ailleurs, 10 kilomètres. Nous, on fait 1. Pour dire ceci, c'est possible. Et ça, c'est en Afrique. C'est possible de le faire, mais nous devons être des personnes qui sont dirigées par l'action et la vision. Je vais conclure par là à mes chers amis, en disant ceci. Peut-être en lisant Psaume 78, 41. Psaume 78, 41. Papa Ramazani a choisi des sujets très compliqués, alors c'est très difficile de couvrir ça dans très peu de temps. Mais vous allez comprendre, les autres on va laisser pour demain. À Psaume 38, le verset 41. La Bible dit, « Il est nécessaire de tenter Dieu et de provoquer les Saint-Esprit, les saints d'Israël. » De provoquer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Si vous lisez dans la version anglaise, vous allez trouver qu'elle dit qu'ils limitèrent Dieu. Là où ça dit tenter Dieu, ils limitèrent Dieu et les provoqua parce qu'il ne permettait pas qu'ils puissent agir au travers d'eux. Dieu est capable de tout. mais il est limité par notre capacité d'être utilisé par lui. Les dons que nous pouvons faire à Dieu pour aider notre pays, c'est d'être des vases utiles, utilisables. Et nous le voyons partout dans la Bible. Daniel, il a été influent pendant 4 rois, 4 règnes, parce qu'il était devenu un vase utilisable. Joseph était devenu premier ministre d'Égypte parce qu'il était devenu, il avait acquis le niveau de connaissance pour être une vase utilisable. Esther, je peux vous citer exemple après exemple. Le plus grand cadeau que tu peux faire pour préparer à diriger ou à aider cette nation, c'est d'être une vase utilisable dans ton domaine. Nous ne serons pas tous des politiciens. On ne le sera pas. Mais dans ton domaine de choix, dans l'agriculture, dans la comptabilité, dans la médecine, dans l'architecture, d'ailleurs les architectes, Papa Saïka, je peux taper sur vous un peu. Les architectes, pas vous, votre communauté, vous allez leur dire. Vous ne comprenez pas comment à Goma, avec tout ce que nous avons étudié, quelqu'un construit une maison en étage sans prévoir là où les escaliers seront. Combien d'entre nous ont déjà vu des maisons pareilles? Nous tous, n'est-ce pas? Tu montes les escaliers et en montant, les escaliers continuent à diminuer. Quand tu arrives en haut, on a plus taïf. Ça, c'est moins sérieux. C'est très moins sérieux. Allô? Nous devons appliquer ça aussi ici à l'église et partout dans nos vies. Je vous donne un défi, mes chers amis. Allez regarder votre environnement à la maison et dire, est-ce que ceci projette réellement ce qui est dans ma tête? Et si cela n'est pas, trouve ça comme raison de vous fâcher et de commencer à travailler sur vous-même. Nous devons travailler pour nous-mêmes jusqu'à ce que le Congo reflète les rêves que nous avons pour le Congo. Et j'espère que ce rêve est bon. J'espère que ce rêve est intéressant. Donc demain, hier nous avons parlé des nations. Aujourd'hui nous venons de parler de la partie individuelle, les fruits de l'esprit, la responsabilité que Satan nous avait volée, que le Christ est venu nous reprendre. Nous avons dit que nous devons être productifs dans la reproduction, les idées, les mots, le travail, les caractères. Nous venons de dire que nous devons acquérir la connaissance suffisante dans notre travail pour faire la différence. Nous devons avoir cette connaissance, elle doit devenir des convictions et nous devons être des personnes qui produisent des résultats et laisser les résultats parler pour nous. Et nous venons de dire, nous ne devons pas limiter Dieu. Nous devons nous former à être des vases qui vont être utilisés. Maintenant, demain, le sujet de demain, c'est le rôle de l'Église dans tout ça. Donc, on va connecter les nations, de ce que nous appelons hier, on va connecter ça aujourd'hui, et maintenant, on va amener l'Église dans l'image. Et ces 3 cycles, je pense, ça va nous aider à comprendre cette partie sur la nation. Et puis, les jours suivants, le docteur Abel va continuer. Donc demain, je vais continuer avec le rôle de l'Église et on va connecter les nations et l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et allez produire les résultats. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Ramazan.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.